Chapitre 4. Ce n'est que le lendemain que Guillaume apprend la nouvelle, au moment d'aller à l'école. Devant son bol de céréales, de fort méchante humeur, il rumine, maudit la nature de sa propre faiblesse. Lorsqu'il s'est réveillé à 8 heures du matin, il lui a fallu quelques instants pour réaliser ce qui s'était passé. Un rayon de soleil, privilège rare en cette saison, lui chatouillait aimablement le bout du nez. « Saperlipopette, il avait loupé le rendez-vous !» Fichu fatigue. Ida avait dû l'attendre en vain. Se croire abandonné, pleurer même. Peut-être, il se serait giflé. Ses parents, en le houspillant pour qu'il se dépêche, l'ont arraché un instant à ses remords, mais ceux-ci sont revenus en force une fois le petit déjeuner servi. Comme il avale sa dernière cuillerée, « Il y a eu un décès hier dans le quartier, » annonce sa mère. Il lève la tête, émet un vague grognement. « Dans l'immeuble d'en face, » précise-t-elle. La foudre tombant aux pieds de Guillaume, et même carrément sur lui, ne lui ferait pas plus d'effet. Il passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, s'étrangle, tousse, crache, et une fois qu'il peut parler, demande d'une voix blanche « Qui ça ?» Une personne du troisième âge, on l'a retrouvée morte dans son lit. C'est le concierge qui a appelé les pompiers. Quand il lui a monté son courrier, personne n'est venu ouvrir, et il s'est inquiété. Elle prend une mine de circonstance et poursuit tout en débarrassant la table. « Pauvre femme !» Le cœur a dû lâcher pendant son sommeil. Elle ne s'est sans doute rendue compte de rien, heureusement pour elle. Guillaume veut répondre, mais il n'y arrive pas. Il reste cloué sur sa chaise, paralysé d'horreur. « Tu es bien pâle, toi, ces temps-ci, » remarque sa mère. « Tu ne nous couvrais pas quelque chose, par hasard ?» Elle regarde sa montre. « Moins 20, déjà ? Tu n'as pas intérêt à traîner, mon bonhomme !» Rassemblant ses dernières forces, Guillaume demande faiblement. « À quelle heure est-ce arrivé ?» La nuit de mardi à mercredi, entre 3 et 4 heures, semblerait-il. C'est difficile à déterminer avec précision, mais on est venu la chercher qu'en début d'après-midi. J'ai appris ça ce matin à la boulangerie. Tout le quartier en parle. En Guillaume, c'est le vide intersidéral, avec ses météores, ses planètes tourbillonnantes, ses explosions cosmiques, et ses trous noirs surtout, effroyables gouffres de néant. Guillaume, qu'as-tu? Tu ne te sens pas bien? Entre 3 et 4 heures. Une image terriblement précise lui vrille la mémoire. Il tenait Ida par l'épaule. Elle était toute chaude contre lui. Quand le clocher a sonné, il a levé la tête. Et tout à coup, il n'a plus rien senti. Elle avait disparu. Il grince des dents. Une nausée le soulève. Elle venait de mourir et il ne le savait pas. Tout se met à tourner autour de lui. « Guillaume, mon chéri !» Sa mère le rattrape au moment où il tombe. « Jean » crie-t-elle affolée. « Jean, viens m'aider. Le petit a un malaise. » Papa jaillit de la salle de bain, le menton plein de mousse à raser. Guillaume a très chaud et il grelotte en même temps. Peut-être a-t-il vomi, ne s'en souvient pas. Ce dont il se souvient, par contre, c'est de l'abominable nouvelle. Une certitude affreuse, déchirante, hurle en lui. Il ne reverra jamais Ida. « Tac, tac !» faisaient les petits talons sur le pavé mouillé. Les néons scintillaient dans la chevelure brune. Sous la capuche noire, le mignon moignon sentait la vanille, la cannelle, la violette. Plus aucune fille ne sent ça aujourd'hui. « Tu m'aideras ?» suppliaient les prunelles humides. « Le grimoire. Trouvez le grimoire à tout prix, pour qu'Ida réalise son rêve. Il lui reste si peu de temps. » Il ne lui reste plus de temps du tout. Le grimoire, même s'ils avaient mis la main dessus, serait aujourd'hui inutile. Ida n'écrira plus jamais, ni ses mémoires, ni rien. Et les lèvres d'Ida ne se promèneront plus sur la joue de Guillaume, légères, légères comme des papillons. « Un peu de fatigue, » dit le docteur, « cet enfant a besoin de repos. Il est en pleine croissance, son organisme fournit de gros efforts. Une bonne cure de vitamines, beaucoup de sommeil, et dans une 8aine de jours, il n'y paraîtra plus. « On l'a enterré la semaine dernière, » dit le concierge, indiquant d'un geste machinal la direction du cimetière. Guillaume remercie. S'éloigne vers l'avenue Émile Zola. Il est encore tout palichon, mais ses jambes ont retrouvé leur solidité. Comme il rentre en classe le surlendemain, sa mère lui a permis de sortir pour se réhabituer au grand air. « Juste une petite promenade », a-t-elle précisé. « N'abuse pas de tes forces, une rechute est toujours à craindre. » Le cimetière se trouve à 1 kilomètre environ à la sortie de la ville. Pour s'y rendre, il faut passer devant la bibliothèque. Tandis qu'il marche, les yeux de Guillaume s'égarent sur le monumental escalier et les colonnades modern style ornant le fronton du bâtiment. Il devine, sur le côté, là, où personne ne va jamais, la petite porte qu'on néglige de fermer. un impérieux besoin de s'y glisser, de retrouver les inquiétants couloirs et leurs marelles fantômes, la grande salle encombrée de livres, et même le pas terrible du gardien l'oppresse quelques minutes. Mais il s'oblige à détourner son regard. C'est à un autre rendez-vous qu'il va rejoindre Ida, un rendez-vous macabre, auquel nul ne peut échapper. De hauts murs apparaissent bientôt. Une grille en fer forgé clôt le lieu solitaire, planté de buis et de cyprès. Guillaume n'y est entré qu'une fois pour l'enterrement de son grand-père. Il emprunte les allées qui serpentent entre les tombes, remarque les plus grandes au passage, de vraies chapelles décorées de vitraux colorés et d'anges à genoux. Beaucoup de fleurs, partout, et un silence recueilli. Ici, même les oiseaux évitent de chanter. Comment trouver Ida ? Guillaume ignore son nom de famille et il n'a pas pensé à le demander au concierge, pas plus qu'il ne s'est renseigné sur l'emplacement exact du cercueil. Il s'est fié à son instinct. Il ferme les yeux, pense très fort à la jeune fille aux longs cheveux. « Guide-moi, petite amie d'une nuit. Tu es un fantasme, après tout. C'est toi-même qui l'as dit. Les fantasmes ont tous les pouvoirs. Fais-moi signe. Prends-moi par la main, comme tu l'as si bien fait dans la bibliothèque, et entraîne-moi vers ta nouvelle demeure pour que je puisse t'y rendre visite. » Il marche maintenant en somnambule, sans regarder devant lui. Il déambule au hasard, se fiant à l'intuition magique qui attire l'un vers l'autre les êtres qui s'aiment, même par-delà la mort. À droite, à gauche, tout droit, promeneur hésitant, étrange joueur de Colin Maillard, il avance, puis soudain s'arrête et ouvre les yeux. Pourquoi ? Il ne saurait le dire. Simplement, il sait que c'est là. La terre fraîchement remuée indique un enterrement récent. Sur la dalle de marbre toute neuve est posée une couronne de roses blanches, portant un bandeau mauve où l'on peut lire « À notre regretté bibliothécaire, la ville reconnaissante ». Guillaume tombe à genoux. Ida l'herbier. 1911-1995, est-il gravé en lettres d'or sur la stèle. Dessous, incrusté dans la pierre, se trouve un médaillon contenant une photo. Un doux visage auréolé de blanc que les rides n'arrivent pas à enlaidir. Il n'est pas difficile d'y superposer en pensée le minois aux longs cheveux, aux yeux couleur noisette, aux fossettes mutines qui obsèdent Guillaume. Pas difficile du tout. Le temps est moins cruel qu'on ne le pense. Derrière ces stigmates, les êtres ne changent pas. De beaux meubles, même sous plusieurs couches de peinture, conservent leur grâce. Il suffit de gratter pour les retrouver intacts. Les gens, c'est pareil. Longtemps, le garçon reste prostré, imprimant à s'en donner la migraine l'image d'Ida sur sa rétine, et lui disant tout bas son amour. Oh, comme il voudrait qu'elle surgisse brusquement devant lui, qu'elle s'évade d'un caveau comme jadis de la porte cochère d'en face, et se mette à courir! Pourquoi les fantasmes ne survivraient-ils pas à ceux qui les inventent ? Guillaume se concentre. Et si la jeune fille aux longs cheveux, après avoir été le fantasme de la vieille dame, devenait le sien ? Si, comme elle, il la projetait hors de son cerveau pour lui redonner cette vie furtive de noctambule pressée ? Il fait un tel effort mental qu'il transpire, mais renonce bientôt. Ida a emporté sa jeunesse avec elle. L'adolescente aux longs cheveux et la vieille dame qui écrivait, réunis en une seule personne, reposent dans leur cercueil sous terre. Pour elle, désormais, présent et passé se confondent. Lorsque la vie s'est retirée, il n'y a plus de différence entre ce qu'on a été et ce qu'on est devenu. On n'est plus que le souvenir qu'on laisse, et les souvenirs n'ont pas d'âge. Plus seul qu'il ne l'a jamais été, Guillaume s'en va, la tête basse. C'est le même soir, alors qu'il contemple avec mélancolie la fenêtre éteinte, le portail fermé, la rue où plus jamais ne résonnera le tac-tac des talons d'Ida, que l'évidence lui apparaît. L'évidence. Une idée si puissante qu'elle lui coupe le souffle. Il sait comment ressusciter Ida. Une sorte de fièvre monte en lui, le possède, il tremble, il a tout compris d'un seul coup. Le cahier. C'est dans les mémoires de la vieille dame que se trouve son amie, entre les pages manuscrites d'où elle s'échappait chaque nuit. La chercher au cimetière, quelle sottise. Les fantasmes ne meurent pas. Quoi qu'il ait pu en penser tout à l'heure, ils survivent là où les a fixés l'écriture, éternellement. Gavroche et Cosette ont-ils disparu avec Victor Hugo ? Les trois mousquetaires ont-ils suivi Dumas dans la tombe ? Et Madame Bovary, dont Gustave Flaubert disait « c'est moi », n'a-t-elle pas survécu à son auteur ? C'est dans l'imagination de milliers de lecteurs qu'ils mènent aujourd'hui leur existence propre, et même parfois, sur les écrans de cinéma. Il faut que Guillaume récupère ce cahier, à tout prix. Chapitre 5. 10 minutes plus tard, il est dans la rue. Personne aux alentours ? Un rapide coup d'œil le rassure. Les riverains dorment déjà pour la plupart et aucun passant ne se profile à l'horizon. Il appuie sur le bouton actionnant le portail de l'immeuble. Sur sa gauche, la loge du concierge. Surtout, ne pas lui mettre la puce à l'oreille. À droite, la cage d'escalier menant aux étages. En catimini, Guillaume s'y faufile. Premier, deuxième, troisième, nous y voici. Une des sonnettes indique Ida l'herbier. Une super trouille au ventre, Guillaume l'actionne. Évidemment, personne ne vient l'ouvrir. L'appartement est vide. Mais la prudence la plus élémentaire voulait qu'il s'en assure. La porte n'est pas blindée. Elle ne possède qu'une serrure ordinaire, à grosse clé, facile à crocheter. Le couteau suisse de Guillaume est muni d'une pince qui semble faite pour ça. Il expérimente son efficacité sur la porte de la maison chaque fois qu'il oublie son trousseau. D'une main tremblante, il déplie la lame. La super trouille devient une méga trouille. Si jamais quelqu'un le surprend, il est bon pour le commissariat. Ce qu'il projette, c'est un cambriolage, ni plus ni moins. Et que l'objet de sa convoitise ne soit qu'un vulgaire cahier, n'y change rien. D'ailleurs, qui le croirait ? On l'accusera plutôt de chercher de l'argent, des bijoux, des objets de valeur. Ce genre de plaisanterie peut l'envoyer tout droit en maison de redressement. Ida, aide-moi. Après tout, c'est toi que je viens délivrer. Ida, m'autorises-tu à pénétrer chez toi ? Si on est invité, il n'y a pas effraction. Clic-clac, fait la pince dans la serrure. Un vrai jeu d'enfant. Guillaume tourne la poignée et, à pas de loup, entre dans l'appartement. Il fait très sombre. Et pas question, bien sûr, d'allumer l'électricité. Le garçon se dirige à tâtons et parvient dans le salon, où l'on y voit plus clair grâce à un réverbère diffusant sa lueur à travers le rideau. La semi-pénombre qui règne dans la pièce permet au moins de s'y repérer. Voici le bureau, avec sa petite lampe rose, le fauteuil où s'asseyait Ida, les rayonnages bourrés de livres. Une pendule dans la présence de la mort n'a pas interrompu le tic-tac. Quelques bibelots, comme on n'en trouve que chez les vieilles personnes, vases garnis de fleurs séchées, statuettes posées sur des napperons, gravures naïvement encadrées. Sur le sofa, au milieu des coussins, un châle. Comme hypnotisé, Guillaume s'en empare, le porte à son nez. Vanille, cannelle, violette. Le parfum qui s'en dégage lui va droit au cœur. Il y enfouit sa tête et s'imagine qu'elle est là près de lui, avec ses grands cheveux, ses yeux couleur noisette, ses deux fossettes qui appellent le baiser. Heureusement que les garçons ne pleurent pas, sinon on pourrait croire que ce sont des larmes qui viennent subitement de mouiller le châle. Le bruit d'une voiture passant dans la rue, puis stoppant avec un grincement de frein, ramène Guillaume sur terre. Une bouffée glacée l'envahit. « Oh ! Les flics ! Quelqu'un a averti les flics !» Il se glisse jusqu'à la fenêtre, jette un œil à travers le rideau. Ce n'est qu'un taxi qui vient de déposer un client non loin. D'un soupir, Guillaume libère sa tension, mais la chair de poule demeure. Pas la peine de moisir dans cet endroit malsain. Bien en évidence sur le sous-main du bureau, et poser un cahier à couverture de cuir. Le garçon le feuillette rapidement. Tout indique qu'il s'agit des mémoires d'Ida. Il le prend, attrape le châle au passage, et file. Il referme soigneusement la porte, puis, ni vu ni connu, redescend 4 à 4 l'escalier.